Eliasa mourut sans avoir de fils. Mais il vit des filles qui épousaient les fils de Kis, leurs cousins.
Verset 23. Fils de Mouchi, Machli, Eder et Jérôme. 3.
Amen.
Verset 24. Ce sont là les fils de Lévi, selon leur maison de père. Selon qui fut le recensé, en comptant les gens par terre, ils étaient le service de la maison de l'Éternel, depuis l'âge de 20 ans et au-dessus.
Esdras, chapitre 1. Esdras. Chapitre 1, verset 1 au verset 5. Est-ce que ça va aller? Cinq premiers versets d'Esdras, chapitre 1.
La première année de ce soir, disait, après que ça a rempli la parole de l'Éternel, prononcée par la vie de Dieu, l'Éternel est derrière les L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda.
Amen.
Et celui qui est de reste dans tous les lieux où chacun s'est pour les hommes qui peuvent lui être avec de l'argent et avec de l'or et avec des pieds et avec du détail pour des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Dieu.
Amen.
Alors c'est le chef de chef dont Dieu avait réveillé les souris afin de monter pour bâtir la maison de l'Éternel.
Amen. C'est bon. Donc, il y a trois catégories de gens qui sont mentionnés. Et ça, c'est mon fardeau aujourd'hui. Les chefs de famille, les sacrificateurs et les lévites. Et même dans 1 Chronique chapitre 22, au temps de David, David avait convoqué les chefs de famille. Et pour dénombrer, n'est-ce pas, les Lévites. Mais les chefs d'Israël, ça veut dire les chefs de famille, les sacrificateurs et les lévites. Et on peut dire que ces trois catégories de personnes comportent la vie de l'Église. Aujourd'hui, qui sommes-nous? Qui sommes-nous? Nous sommes des familles. Donc ça c'est le fardeau. Les familles. Et chaque famille doit se servir en tant que sacrificateur et en tant que lévite. Dans l'Ancien Testament, c'était un peu différent. Parce que dans l'Ancien Testament, il y avait une tribu, la tribu de Lévi, qui était responsable du service de l'Éternel. À cause de leur fidélité, à cause de le fait qu'ils étaient absolus pour Dieu. N'est-ce pas? Quand Israël a été impliqué dans l'idolâtrie du veau d'or, Moïse a fait un appel. Qui? Tous ceux à moi, tous ceux qui sont pour l'Éternel. Et seulement la tribu de Lévi a répondu. Et donc, à partir de ce moment, la tribu de Lévi est devenue la tribu, n'est-ce pas, consacrée au service de l'Éternel. Amen. Mais dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, et même dans l'Ancien Testament, le dessein de Dieu était que tout son peuple soit sacrificateur, n'est-ce pas, que tout son peuple le serve. Donc, aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, il n'y a pas une classe séparée qui sert. Non. Nous sommes tous qualifiés. Nous sommes tous, n'est-ce pas, lévites sacrificateurs. Mais qui sont ces sacrificateurs et ces lévites? Quand nous avons, n'est-ce pas, nous pensons aux sacrificateurs, aux lévites, nous pensons à des hommes spirituels, des hommes, n'est-ce pas, spéciaux, des hommes particuliers, des hommes qui s'occupent des choses de Dieu. Mais qui sont ces gens? Ce sont des chefs de famille. Ils font tous partie d'une famille. Donc, si nous voulons une église saine à Abidjan, il faut faire attention à la famille. Les chefs de famille. Ça veut dire que le mariage, et voilà, le fardeau, et vous allez dire, mais je ne suis pas encore marié. Bon, attendez, je vais... vous serez mariés. Donc, ça vous implique aussi, n'est-ce pas? Ça concerne tout le monde. Ceux qui sont mariés, ceux qui ne sont pas encore mariés. En tant que chef de famille, les chefs de famille dans Esdras chapitre 1 étaient les premiers mentionnés à répondre à l'appel. Les chefs de famille, ensuite quoi? Les sacrificateurs et les lévites. Mais les chefs de famille sont mentionnés d'abord. Ça veut dire que Dieu donne beaucoup, beaucoup d'importance à la famille. Vous voyez, nous voulons servir Dieu. Moi, je veux servir Dieu. Moi, je suis zélé pour Dieu. Mais Dieu dira, oui, je veux la famille. Je veux toi et ta famille. Ta femme et tes enfants. Donc, nous insistons souvent sur l'individu. Point. Je veux servir le Seigneur. Je veux me donner au Seigneur. Oui. Mais Dieu dira, oui, mais tu es chef de famille. Ça veut dire que tu as une famille. Et là, tu as une responsabilité. Ce n'est pas seulement toi, mais c'est toi et ta famille. Donc, Josué, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il a dit à la fin de ça, n'est-ce pas, il a dit, quant à moi, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Voilà. Donc, ne négligez pas la famille. Et là, le mari, en tant que mari, maintenant, nous avons une responsabilité envers notre famille, envers notre femme, envers nos enfants. Si nous voulons d'abord que notre famille suive le Seigneur, nous devons suivre le Seigneur, absolument. Ah, moi, je dois suivre le Seigneur. Je dois répondre au Seigneur. Ah, je ne peux jamais demander à ma femme de faire quelque chose, ni à mes enfants, de faire quelque chose que moi, je ne fais pas. Alors, la manière dont nous vivons notre vie à la maison, et j'ai touché ça dimanche matin, la manière dont nous vivons notre vie au foyer va déterminer à la croissance de nos enfants. Parce qu'il y aura un jour, si nous ne nous donnons pas au Seigneur, nos enfants vont suivre notre exemple. Nous avons une vie, nous menons une vie, et puis nous demandons à nos enfants de mener une autre vie. Mais il y a des parents qui font ça. Ils disent, Dieu, pour moi, je suis trop vieux. Je suis, maintenant, je suis à l'aise, où je vis ma vie, mais je veux que mes enfants trouvent Dieu. Je m'occupe d'eux. Hein? Je veux que mes enfants trouvent Dieu. Je veux que eux, ils ne fassent pas la même erreur que moi j'ai fait. Bon, on va faire notre mieux pour s'occuper des enfants. N'est-ce pas? Là aux États-Unis, là où je suis, il y a des parents qui ne s'intéressent pas à Dieu. N'est-ce pas? Ils ne s'intéressent pas tellement à la vie de l'Église. Ils ne sont pas contre. Mais ils veulent que leurs enfants connaissent, soient religieux. Ils veulent que leurs enfants grandissent avec une connaissance de Dieu. Et on s'occupe d'eux, n'est-ce pas? Autant que nous puissions. Mais nous disons aux parents, hein, vous n'êtes pas exempt. Si vous voulez que vos enfants suivent le Seigneur, connaissent Dieu, il est temps que vous connaissiez le Seigneur. Vous devez vous lever, n'est-ce pas? Oui, il faut. Alors, nous passons du temps avec eux pour les fortifier. Pour... Vous voyez? Mais la mentalité, c'est que moi, en tant que parent, je suis trop vieux, trop âgé, je suis fixé dans mes habitudes, n'est-ce pas? Je ne peux pas changer, mais mes enfants sont jeunes. Alors, eux peuvent changer. Alors, œuvrez avec eux. Je vous donne la liberté. Bon. Et on leur dit, père, mère, frère, sœur, Dieu veut une famille. Hein, il veut toi, vous et vos enfants. Ça veut dire que Oui, il y a des enfants qui suivent le Seigneur, dont les parents n'ont jamais suivi le Seigneur. Mais ça, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Vous voyez, ça, ce n'est pas normal. Oui, Dieu est souverain et Dieu fait tout, n'est-ce pas? Mais ça, ce n'est pas normal. Ce qui est normal est que Dieu gagne des familles. Il gagne des familles. Ah, est-ce que ça veut dire que tout le monde va suivre le Seigneur? Non. Mais ça, ce n'est pas notre affaire. Notre affaire, c'est de... N'est-ce pas? Comment est-ce que moi et ma famille, nous pouvons suivre le Seigneur? Donc, en tant que parent, en tant que père et mère, si vous êtes mariés, n'est-ce pas? Bon. Il faut que le mari et la femme soient un. Ah. Il faut que le mari et la femme voient la même chose. Ah, qui voient la même chose. Je m'excuse, mais s'il y a des secrets que vous cachez de votre mari ou de votre femme, votre mariage n'est pas harmonieux. Je connais des couples, n'est-ce pas, où la femme, n'est-ce pas, a des secrets. Elle, bon, ils s'aiment, oui, ils sont ensemble. Mais il y a certaines choses que le mari, la femme, ne dira pas au mari. Et que le mari ne dira pas à la femme. Ce mariage, non. Et il y aura des soucis, des problèmes. Dans le mariage, il faut une transparence. Il faut une transparence, n'est-ce pas? Il faut pas un voile. Alors, le mari devra dire à sa femme tout ce qu'il a fait pendant la journée. Et le mari n'a pas le droit, ni la femme, de dire « ça c'est pas ton affaire ». Non, c'est l'affaire de tous les deux. Ah, ce que moi, en tant que mari, je fais depuis le matin jusqu'au soir, je ne dois jamais cacher à ma femme. Parce que, oui, autrement j'ai deux vies. Je vis une vie, n'est-ce pas, et une autre vie devant ma femme. Et ce mariage-là ne va pas durer trop longtemps. C'est-à-dire que, ou s'il dure, il y aura des... Ce ne sera pas doux, un mariage doux. Il y aura de l'amertume, il y aura des disputes. Alors, donc, même quand, et je parle, n'est-ce pas, selon mon expérience, parce que on se connaît, ma femme et moi, n'est-ce pas, nous nous connaissons. Et elle, n'est-ce pas, elle connaît mes faiblesses. Et parfois, elle me demande, n'est-ce pas, ce que j'ai fait. Ah, par exemple, vous savez, n'est-ce pas, surtout, que j'aime courir. Je fais la course, ok. Bon, et parfois, n'est-ce pas, je cours, peu. Mais parfois, je cours plus, n'est-ce pas? Et ma femme, n'est-ce pas, elle s'inquiète toujours que je cours trop. Voilà. Et moi, j'aime courir, c'est... Ok, c'est... Parce que quand vous courez, si vous êtes un coureur, vous savez que quand vous commencez, ben vous continuez, c'est... Bon. Et parfois, ma femme me demande, combien de temps est-ce que tu as couru? Bon, et la tentation, c'est de mentir. Ou de ne pas mentir, parce que je ne veux pas mentir, alors de dire, oui, je ne sais pas. Vous voyez? Ou, comme d'habitude, comme toujours. Oui, je ne veux pas révéler, parce que je sais que ma femme va se fâcher. Elle va dire, ah, je t'ai dit, n'est-ce pas, tu cours trop et, n'est-ce pas, tu ne t'occupes pas des choses de la maison, des choses qui doivent être faites. Voilà, parce que tu... Alors, donc, pour ne pas avoir cet ennui, n'est-ce pas, je préfère, n'est-ce pas, quoi, je préfère ne rien dire là-dessus. Ça veut dire que je cache quelque chose, n'est-ce pas? Et il y a toujours quelque chose que nous cachons. Alors, dans la famille, n'est-ce pas, entre le mari et la femme, mettez tout sur la table. Mettez tout sur la table. Soyez honnête et commencez en confessant. Alors souvent, n'est-ce pas, je dois confesser à ma femme, n'est-ce pas? Soyez le premier à confesser, à vous humilier. Et ce n'est pas facile, hein, de s'humilier, mais confessez tout et que rien ne soit caché. Parce que si nous vivons une vie cachée, une vie, n'est-ce pas, où nous cachons quelque chose, hein, notre rapport avec le Seigneur sera le même. Le même. Ah. Il n'y aura pas de sincérité. Une sincérité dans le mariage va se refléter dans le rapport avec le Seigneur. Donc ça, c'est un peu mon souci, hein, mon fardeau. Les enfants, comment élever les enfants? Comment est-ce que nos enfants peuvent grandir? Ça, ce n'est pas tellement mon fardeau. Parce que si le rapport entre le mari et la femme est sain, les enfants vont voir quelque chose. Ils vont témoigner de quelque chose. N'est-ce pas? Donc, souvent ma femme me dit, il faut que nous, elle et moi, nous nous occupions de nous-mêmes. N'est-ce pas? C'est-à-dire que il faut que le rapport entre nous soit frais, soit ouvert, soit transparent, soit nouveau. Ah. Et les enfants, oui, les enfants verront cela. Ils verront un témoignage. Donc, le mariage, ma femme me dit souvent, le mariage, c'est quelque chose, le rapport marital, c'est quelque chose qu'on doit toujours œuvrer. On doit toujours faire attention. On ne peut jamais prendre le rapport entre mari et femme comme un donné. Ah, nous sommes mariés. Maintenant c'est fini, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on vit notre vie, n'est-ce pas, de mariage. On vit une vie mariée. Non, le rapport a toujours besoin d'être renouvelé, d'être rafraîchi, d'être toujours. Je dois faire attention à ma femme. Quel est son sentiment? qu'est-ce qu'elle pense de ça? Qu'est-ce qu'elle pense de ça? Hein? Et ça, c'est... On s'occupe l'un de l'autre. Vous voyez, le chef de famille ne veut pas dire que je suis la tête et que j'exerce de l'autorité absolue sur ma femme. Non, chef de famille, chef. Hein? Chef veut dire quoi? Chef veut dire que je suis prêt à faire le premier pas. Comme Christ, n'est-ce pas? Vous vous souvenez du verset? Christ a tant aimé, n'est-ce pas? Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Mais comment est-ce que Christ a aimé l'Église? Pas en exerçant son autorité absolue, mais en se donnant, en se sacrifiant. N'est-ce pas? Aimez vos femmes quand Christ a aimé l'Église et s'est donné pour elle. Vous voyez? Donc, en tant que mari, je dois être prêt à donner ma vie à ma femme. À sacrifier si je l'aime. Ça, c'est... Ça c'est là le chef de famille. Mais donc faites attention à votre mari, à votre femme. Ça c'est pour suivre le Seigneur, ce n'est pas seulement un individu, c'est deux individus, c'est deux, n'est-ce pas, le mari et la femme, et les enfants, chef de famille, ah, chef de famille. Ok, je ne sais pas, n'est-ce pas, mais... Si ma femme, si mon mari n'aime pas le Seigneur comme moi je l'aime, qu'est-ce que je fais? Ou même si mon mari ou ma femme n'est pas sauvé, n'est pas chrétien, ah, comment est-ce qu'est-ce que je fais? Voilà une question. Ah. Ça, oui, il faut beaucoup de grâce. Mais vous avez une obligation envers votre mari et votre femme. Alors, Dieu veut la famille. Il veut le couple, n'est-ce pas? Il est... Et je veux dire ceci, hein, c'est... Quand ne pensez pas, ok, moi je vais suivre le Seigneur et donc je ne veux aucun empêchement, n'est-ce pas, dans ma poursuite du Seigneur. Non, le divorce ou la séparation, n'est-ce pas, n'est pas selon le Seigneur. Le Seigneur, il est pour la famille. Alors, si vous, en tant que mari ou femme, vous pensez que, ah, moi, j'aime le Seigneur, je vais le suivre. Et, n'est-ce pas, si ma femme ne le suit pas, je ferai tout ce que je peux pour suivre le Seigneur. Et si elle me suit, ou si elle croit au Seigneur, ça c'est sa responsabilité. Non. Oui, c'est la responsabilité de la femme ou du mari de suivre le Seigneur. mais c'est ma responsabilité en tant que mari de chérir, d'aimer ma femme, n'est-ce pas, de la garder, de ne pas la sacrifier. Ça ne veut pas dire que je renonce à Dieu. Non, 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 non. Ou que je renonce à la vie de l'Église. Mais j'ai une responsabilité de préserver le mariage, de garder le mariage. Dieu ne veut jamais sacrifier un mariage pour que nous puissions le suivre. Ah, si nous avons cette pensée, nous pensons, n'est-ce pas notre... Non, c'est pas ça. Dieu ne veut jamais sacrifier un mariage pour que nous suivions Dieu. Il arrive parfois, malheureusement, que la femme ou le mari, n'est-ce pas, se sépare de l'autre à cause de ça. Et ça, c'est regrettable, n'est-ce pas? Mais même dans ce cas-là, l'autre doit faire tout son effort, doit de garder le conjoint. Si elle ou lui ou il décide éventuellement de partir, oui, on n'y peut rien. Mais ça, c'est le dernier recours. C'est le dernier recours. C'est pas le premier recours. Femme, si tu n'aimes pas le Seigneur, tu peux quitter. Bon, moi, je ne te divorce pas. Mais c'est toi, tu es libre. Non, non, non. Ça, jamais. Jamais. Voilà. Toujours le mariage devant les yeux du Seigneur est primordial. Il est sacré. Ah, il n'est pas quelque chose à être sacrifié comme ça. Même la vie de l'Église, ah, c'est... il est... Dans la vie de l'Église, si le mari et la femme ne voient pas la même chose, attention, aimez, aimez-vous les uns les autres, n'est-ce pas? C'est quoi qu'il arrive, préserver le mariage. Dans notre zèle pour le Seigneur, c'est bien d'être zélé pour le Seigneur. Mais, comment dire, parce que c'est difficile à dire, n'est-ce pas? Dans notre zèle pour le Seigneur, ne sacrifions jamais le mariage. C'est, faisons notre mieux de le préserver. Moi, je connais des couples où la sœur, surtout la sœur, sert le Seigneur depuis longtemps, oh, ardemment. Le mari, pas autant. Je pense qu'il est sauvé, il est chrétien, mais, et je me demande parfois, Seigneur, quand est-ce que le mari va? Il va se tourner vers toi. Et il est venu au rassemblement, n'est-ce pas, de temps en temps. On a eu beaucoup de contacts avec lui. Il est très gentil. Mais il ne voit pas la même chose. Il ne voit pas la même chose. Et j'arriverai à ça un peu plus tard. Mais ils sont déjà mariés, n'est-ce pas? Ils ont marié depuis longtemps. Et la femme, à un certain moment, s'est tournée vers le Seigneur, n'est-ce pas? Mais lui, il a reçu le Seigneur, mais sa vie n'a pas vraiment changé, hein, comme celle de la femme. Mais ils vivent en harmonie, Et là, j'ai vu ce mariage-là, il a une harmonie, il y a un accord, il y a. Et elle, je sais qu'elle, elle fait de son mieux de garder l'harmonie, tout en servant. Et elle sert beaucoup plus que, n'est-ce pas, même des sœurs qui ne sont pas mariées. Elle ouvre sa maison, son mari le permet, n'est-ce pas, elle invite des saints chez elle, chez eux. Mais il y a un sacrifice. Elle s'est sacrifiée. Elle a fait un effort pour garder son mari. N'est-ce pas? Parce que ça aurait été facile pour lui de la quitter. Et ça aurait été facile pour elle d'en trouver un autre qui voit la même chose. Il y en a beaucoup. Enfin, pas beaucoup, mais. Mais il y en a, n'est-ce pas? Oui, ça c'est parfois. Oh, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres, n'est-ce pas, qui ne sont pas aussi purs. Et c'est, n'est-ce pas, la pensée, n'est-ce pas? Ah, si mon mariage était comme celui de tel ou tel. Ah, le couple est idéal, n'est-ce pas? Dans la vie de l'Église, ils sont toujours ensemble, ils ouvrent leur maison, ils viennent ensemble à la réunion, ils sont toujours contents, ils louent le Seigneur ensemble, ils prient ensemble. Si seulement je pouvais avoir un mariage comme ça. Ah. Et donc le Seigneur doit nous toucher, nous faire rappeler que celui ou celle qui nous a donné est le meilleur ou la meilleure. Vous voyez? Donc après le mariage, et je viens bientôt à. Je vais parler de la situation avant le mariage. Mais pour le moment, pour commencer, c'est ceux qui sont mariés, déjà mariés. Hein. Avant le mariage, vous avez les yeux ouverts. C'est pas. Mais après le mariage, vous avez les yeux fermés. Voilà. Parce que vous n'avez plus le droit d'ouvrir les yeux pour regarder. Cette femme ou ce mari, n'est-ce pas? Ah, ce mariage. Oh, je convoite ce mariage. Je convoite ce rapport entre tel ou tel frère et telle sœur. Et puis je rentre à la maison et je dis à ma femme, ah, mais telle ou telle sœur ne fait pas ça. Telle ou telle sœur ne pense pas comme. Ah, ne faites jamais ça, s'il vous plaît. Ne faites jamais de comparaison. Non, on ne fait plus de comparaison. Avant le mariage, vous avez le droit de comparer telle sœur, telle. Et faire votre choix. Et n'oubliez pas que l'autre va aussi. Il aussi fait des comparaisons pour faire son choix. Mais finalement, quand vous vous êtes choisi, n'est-ce pas? Ça, c'est le choix de Dieu.
Amen.
Et c'est final.
Amen.
C'est le choix de Dieu. Amen. Ouais, ferme les yeux. Oui, c'est ça. C'est. Ouais. Alors, chef de famille. Ah, bon, peut-être que vous ne pensiez pas que ça allait sortir en lisant le verset. Les chefs de famille, hein, c'est. Mais n'est-il pas curieux, intéressant que les chefs de famille sont mentionnés le premier. Et dans 1 Chronique chapitre 23 aussi, David a convoqué les chefs de famille d'abord. Et effectivement, les sacrificateurs et les lévites, on en parlera peut-être l'après-midi ou demain, ils étaient aussi chefs de famille. Ils avaient des familles. Hein? C'est pas comme, comme les moines ou les, n'est-ce pas, les sœurs, n'est-ce pas, dans l'église, dans certaines dénominations, n'est-ce pas, où les sacrificateurs ne sont pas mariés. Non, ils étaient mariés et ils sont classifiés par leur famille. Hein, par leur quoi, leur fils, n'est-ce pas, et leur fille dans certains cas. Ça veut dire que Dieu attache tant d'importance à la famille. Ah. Mais ça commence avec le mari et la femme. Voilà, je vous ai raconté beaucoup d'histoires au cours des années que je viens en Côte d'Ivoire. Beaucoup d'expériences, n'est-ce pas? Mais je sais, pour moi, quand ma femme servir le Seigneur, quand on est marié, et peut-être le plus difficile, parce que tout ce qui est tout ce que vous avez quand vous étiez quand vous n'étiez pas marié, quand vous étiez ça c'était votre but, votre objectif, c'était de vous donner au Seigneur. Absolument. N'est-ce pas? Seul. Mais quand vous êtes marié, il n'y a pas seulement vous, mais il y a aussi votre conjoint. Donc, servir ensemble est beaucoup plus difficile que servir seul. Parce que vous devez vous sacrifier. Et ça ne veut pas dire que vous sacrifiez Dieu. Parce que tout de suite, on a l'idée. Oh, donc, je renonce à Dieu. Non, non, non. Personne ne vous dit de renoncer à Dieu. Ah, mais ça, c'est notre concept. Ah, que mon conjoint va m'empêcher de suivre Dieu. Non. C'est que nous servons Dieu ensemble. Et que quand il y a une harmonie dans le mariage, de servir le Seigneur ensemble, vous allez voir que c'est beaucoup mieux et beaucoup plus efficace que servir Dieu seul. Notre concept, c'est que quand je suis seul, célibataire, j'ai beaucoup de temps. Tout mon temps est à moi de donner à Dieu. Oui, ok, Paul était comme ça, n'est-ce pas? Paul, apparemment, n'était pas marié. Ok, oui, bon. Mais la plupart des cas, hein, la plupart d'entre nous sont mariés ou seront mariés. Nous n'avons pas ce don, ok, de rester célibataire. Si vous avez ce don que Dieu, n'est-ce pas, c'est Dieu qui vous l'a donné, n'est-ce pas? Mais la plupart d'entre nous n'ont pas ce don, n'est-ce pas? Voilà. Moi, non, je n'ai pas ce don. Et donc, je suis marié. Et dans mon mariage, au cours de mon mariage, ce qui m'a blessé le plus, c'est quand ma femme me dit, toi, tu sers le Seigneur. Et moi, je ne fais pas partie de ça. Elle aime le Seigneur, elle aime beaucoup le Seigneur. Mais quand elle dit ça, je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Toi, tu vas ici et là, toi, tu vas, n'est-ce pas, tu cours, tu fais, et, n'est-ce pas, et moi, je ne fais pas partie de ça. Ça, c'est, à ce moment-là, je sais que j'ai négligé quelque chose, n'est-ce pas, que je l'ai négligé. Dans mon zèle de servir le Seigneur, de courir, de faire des choses pour le Seigneur, j'ai oublié que c'est ma femme et moi qui servons ensemble. Mais moi, je dis à ma femme, mais toi tu ne sers pas à plein temps comme moi, n'est-ce pas? Ça veut dire que je n'ai pas compris. Ah, non, ce n'est pas une question de servir à plein temps ou non. C'est une question de faire partie, d'être inclus, de participer. Voilà le mot. De participer à ce que le Seigneur nous a donné. N'est-ce pas? À la vision et à l'engagement que le Seigneur nous a donné. Et je sais que quand ça, c'est normal, que elle et moi, nous soyons, n'est-ce pas, que nous participions tous les deux, quand ça, c'est normal, tout le reste va suivre. Peu importe si je suis en Afrique, ou que je suis au Canada, n'est-ce pas, ou ailleurs, et elle n'est pas avec moi physiquement. Ça, c'est pas la question. C'est que elle est un avec moi. Vous voyez? Et moi, je suis un avec elle. Et je ne sais même pas aujourd'hui comment comment arriver à ça. Hein? Alors, donc, j'apprends toujours, n'est-ce pas? Mais je sais que retourner au Seigneur ou suivre le Seigneur, c'est une question de deux, le mari et la femme. Et c'est pas une question de, parce que elle me dira parfois, ok, tu vas faire ce que tu vas faire. Parce qu'elle me connaît, n'est-ce pas? Elle me connaît. Ah, tu vas faire ce que tu vas faire. Alors, même si j'ai quelque chose à dire, tu vas. Et je sais que il y a quelque chose, n'est-ce pas, là que j'ai négligé et que je dois revenir. Ah, pour prier avec elle ou pour être avec elle, n'est-ce pas, pour que l'harmonie soit restaurée, pour que le rapport entre nous soit un. Donc, je n'ai pas la solution, j'ai pas de solution, c'est toujours quelque chose dont je suis conscient. Je suis conscient, n'est-ce pas? Et je dois toujours m'empêcher de dire. C'est-à-dire que la tendance, comme je l'ai dit avant, c'est de regarder d'autres couples. Je vois d'autres frères, d'autres couples. Le frère, le mari, il voyage, n'est-ce pas? Il est absent pendant longtemps. Et sa femme, n'est-ce pas, apparemment, elle sourit, elle est contente. Ah non, elle fait, elle continue, elle vit. N'est-ce pas, comme si elle n'était pas... Enfin, comme si elle n'était pas... comme si elle ne s'inquiétait pas, n'est-ce pas? Et... Ah, comment va ton mari? Ah, il est dans les mains du Seigneur. Voilà, n'est-ce pas, il est... Ah oui, il est en train d'opérer ici et là, et le Seigneur est béni. Et elle est là avec 34 enfants, n'est-ce pas? Et... Ah, quel... quel contentement, quelle joie, n'est-ce pas? C'est... Si seulement ma femme pouvait avoir la même... la même attitude. Ah, mais je vois que, n'est-ce pas, ça c'est... Non, c'est le mieux, n'est-ce pas? C'est pour me montrer, n'est-ce pas, que j'ai besoin du Seigneur. J'ai besoin de venir au Seigneur avec ma femme. Et de toucher le Seigneur ensemble. Ah, il ne s'agit pas de faire des comparaisons, mais il s'agit de se réjouir, n'est-ce pas, de ce que le Seigneur nous a donné, n'est-ce pas, le rapport entre notre conjoint, c'est le meilleur, hein, pour notre perfectionnement. Donc, voilà un peu mon fardeau concernant, n'est-ce pas, le mariage, le chef de famille. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes mariés, hein, et vous avez aussi, n'est-ce pas, de nouveau, des bébés. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas encore mariés, hein, voilà un mot, quelque chose qui va s'appliquer à vous. Vous n'êtes pas marié, vous comptez vous marier, vous voulez vous marier. Ah, c'est très important. Peut-être que vous avez entendu ça plusieurs fois. Vous allez entendre une autre fois. Ok. Et peut-être même une autre fois. Parce que le choix que vous faites, le mari ou la femme que vous choisissez, va déterminer votre vie chrétienne, votre vie de l'Église. Donc, à ceux qui ne sont pas encore mariés, ayez les yeux ouverts. Pas fermés. Ah. Pas fermés, les yeux ouverts. Voilà. Mais après le mariage, fermez-les. Mais avant, choisissez-vous. Oui. Et toujours ayez de la communion avec des frères, d'autres frères, n'est-ce pas? Surtout ceux qui sont plus âgés. Ne dites pas, oh, j'aime tel ou tel et c'est ma décision et, n'est-ce pas, nous sommes amoureux l'un de l'autre et c'est ma vie, c'est mon mariage et, n'est-ce pas, personne ne peut me dire le contraire. Si vous faites ça, vous risquez d'avoir un mariage qui n'est pas là où vous serez frustré. Alors, je vous conseille, et choisissez. Il y a des sœurs, n'est-ce pas, ici, dans la vie de l'Église, à Abidjan, choisissez parmi elles. N'allez pas à l'extérieur, dehors, pour choisir une sœur. Et essayez de vous limiter aux sœurs qui sont dans la vie de l'Église, parce que elles voient la même chose que vous voyez. Voyez. Et peut-être que d'autres sœurs ailleurs aiment le Seigneur, elles croient au Seigneur, mais qu'elles voient la même chose que vous, la même vision de l'Église, ça c'est autre chose. Ah. Alors, vous êtes zélé maintenant, n'est-ce pas? Vous aimez le Seigneur ardemment maintenant, vous. Mais le choix que vous faites de conjoint va déterminer si vous allez continuer à aimer le Seigneur aussi ardemment. Ah. Alors, il y a beaucoup de rassemblements. Par exemple, il y a beaucoup de rassemblements. Enfin, ça veut dire que votre vie sera différente. Votre vie est déjà différente. Ah. Mais quand vous serez marié, pour continuer la vie de l'Église, la vie de rassemblement, ça veut dire que, n'est-ce pas, vos soirées, même vos week-ends, ne seront pas comme ceux de tout le monde. N'est-ce pas? Beaucoup de gens fêtent le week-end, s'amusent. Il y a des soirées, il y a des événements, des choses comme ça. Votre vie est différente. Et donc, quand vous vous mariez, tous les deux, n'est-ce pas, vous deux, vous et votre conjoint, est-ce que vous serez d'accord? Est-ce que tous les deux seront d'accord que ça, c'est notre vie? Notre vie n'est pas une vie de luxe, une vie de plaisir. Ça ne va pas dire que je ne peux pas amener ma femme, n'est-ce pas, à un restaurant pour souper. Non. Ça, n'est-ce pas, et j'ai besoin de le faire. De temps en temps, et peut-être plus souvent que je le fais, n'est-ce pas? Oui, non. Donc, c'est pas que, n'est-ce pas, ah, maintenant il n'y a plus de, on s'amuse plus. Non, je me dis, mais quelle est la vision? Quelle est la façon de penser? Ah, c'est ça. Le conjoint, n'est-ce pas, qui voit que sa vie est pour Christ et l'Église. Sa vie est, n'est-ce pas, ma vie, notre vie est pour Christ et l'Église. Ça veut dire que il y aura des sacrifices. Oui, le week-end sera sacrifié, le week-end sera consacré au Seigneur, n'est-ce pas, au service, n'est-ce pas, s'il y a une salle de réunion, n'est-ce pas, que peut-être que vous allez éventuellement obtenir si le Seigneur, c'est pas bon, ça veut dire que il y aura l'entretien, ça demande un sacrifice. Quand est-ce que vous allez le faire? Bon, probablement le samedi, parce que c'est pas, si vous travaillez pendant la semaine, c'est le samedi ou le dimanche. Mais de toute façon, vous travaillez pendant la semaine, et puis vous travaillez le samedi. Tandis que normalement, le samedi, c'est pour faire la grasse matinée, pour faire les courses, pour faire le ménage à la maison, et pour se divertir le soir. Bon. Mais donc, ce que vous épousez, vous allez voir. Non. Si vous épousez quelqu'un qui ne voit pas la même chose, vous serez obligé, comme je l'ai dit avant, vous serez obligé de sacrifier la vie de l'Église à cause d'elle, à cause du mariage. Parce que une fois marié, c'est trop tard. Vous voyez, c'est trop tard. Une fois marié, c'est le meilleur conjoint pour vous. Mais pas avant. Avant, vous avez le choix. Donc, choisissez sagement. Choisissez, n'est-ce pas, devant le Seigneur. Et avec beaucoup de communion avec les frères et les sœurs, ceux qui sont proches de vous, ceux qui sont plus âgés, n'est-ce pas, pour avoir la communion. Ça, je vous, ça c'est mon, hein, mon conseil. Le chef de famille, c'est la base, c'est même la colonne de la vie de l'Église, les familles. Oui. Pour que l'Église puisse avancer, il faut des familles saintes. Il faut des mariages saints. Donc, dites au Seigneur, même faites un vœu au Seigneur. Seigneur, je ne vais pas, Seigneur, limite mon choix à la personne que toi tu choisis pour moi. Seigneur, ne me permets pas de choisir moi-même. Seigneur, toi, tu dois choisir pour moi. Moi, j'ai attendu quand je me suis marié. J'avais, effectivement, j'avais 30 ans. Et j'ai touché la vie de l'Église quand j'avais quel âge? 24 ans. 24 ans. À l'université. Quelque temps après, à cette époque-là, mes parents commençaient à s'inquiéter de moi. Parce que je n'étais pas encore marié. Et donc, bien sûr, n'est-ce pas, les parents, ils veulent des petits-enfants aussi. C'est, donc, ils veulent que leur fils, n'est-ce pas, leur fille, soit mariée. Donc, on a proposé, il y avait une fille en Inde qu'on connaissait depuis longtemps, même dès l'enfance. On a grandi ensemble, n'est-ce pas? Une sœur, elle était une très bonne, une sœur qui aime beaucoup le Seigneur. Et donc, on a proposé, n'est-ce pas, ça. Mais moi, j'avais prié le Seigneur avant. Seigneur, c'est toi qui dois choisir. Mais Seigneur, si c'est possible, je préfère que ce soit une sœur qui se rassemble dans la réunion, n'est-ce pas? Et donc, j'ai dit à mes parents que je voudrais épouser quelqu'un, n'est-ce pas, qui appartient à la même ou qui va assister aux mêmes réunions, au même rassemblement. Voilà. Et mes parents m'ont compris, n'est-ce pas? Voilà. Donc, mais moi j'étais clair que je ne voulais pas sacrifier, je ne voulais pas renoncer à mon droit d'aînesse. Ça veut dire que quelque chose que Dieu m'avait donné, je ne voulais pas le vendre pour, n'est-ce pas, jouir de quelque chose. Quelque chose qui semblait attirant, n'est-ce pas, et qui aurait pu être, n'est-ce pas, bon, on ne sait jamais, mais j'ai préféré attendre j'ai préféré attendre que le Seigneur envoie celle qui convenait, n'est-ce pas, à la même vision que moi j'avais. Ah, est-ce que j'avais une grande vision? Non. Mais là où j'étais, au niveau où j'étais, j'étais clair. Seigneur, je veux quelqu'un qui pense comme moi, qui voit la même chose, un peu, à plus ou moins, n'est-ce pas? Bon. Et donc, j'ai attendu 6 ans, parce que j'avais 25 ans, peut-être 26 ans à l'époque. Donc, à peu près 3 ou 4 ans, j'ai attendu. Ah. Mais la deuxième fois, c'était ma femme, mais encore à travers ma mère qui a, parce qu'elle, donc, elle commençait à venir au rassemblement. Ah oui, elle a vraiment touché. Elle aussi, elle était une sœur qui aimait beaucoup le Seigneur. Mais elle commençait à venir au rassemblement. Voilà, vous voyez. Et donc, le Seigneur l'a touché, n'est-ce pas? Et puis, c'est elle qui, à travers elle, j'ai pu rencontrer ma femme dans la, qui assistait au rassemblement. Mais ma mère était comme le quoi, l'intermédiaire. Voilà, l'intermédiaire. Donc, la deuxième fois, j'ai écouté ma femme. J'ai écouté ma mère, n'est-ce pas? La première fois, j'étais clair, non. Mais la deuxième fois, le Seigneur l'a utilisé pour me trouver, n'est-ce pas, la meilleure femme, n'est-ce pas? Donc, vous voyez, donc ça c'est comment le Seigneur, il a œuvré, il a géré l'affaire, n'est-ce pas? Parce que si nous pouvons attendre, attendre le Seigneur, attendre le choix du Seigneur, vous n'aurez pas de regrets. Je vous dis, c'est... Mais nombreux sont les mariages où il y a des regrets. Ah, il y a des regrets. Et... Mais c'est trop tard. N'est-ce pas? C'est trop tard. Donc, avant... Soyez devant le Seigneur. Soyez exercés. Seigneur, mon mariage, c'est une question de toute ma vie. Toute ma vie de te suivre. Seigneur, je ne veux rien faire qui puisse empêcher, n'est-ce pas, la poursuite de toi. Rien faire. Seigneur, tout ce que je ne veux pas déterminer ma vie, je te donne le choix. Je te laisse le choix. Priez comme le Seigneur a prié, n'est-ce pas, dans le jardin de Gethsemane, n'est-ce pas, il a prié, Seigneur, néanmoins, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Il a prié, n'est-ce pas, Seigneur, que cette coupe passe de moi, n'est-ce pas, néanmoins, pas selon ma volonté, mais pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Donc, cédez au Seigneur. Cédez tout choix au Seigneur. Et cherchez toujours de la communion. Cherchez toujours de la communion avec d'autres frères et sœurs. N'est-ce pas? Plus âgés, qui ont de l'expérience, qui connaissent le Seigneur, ça sera votre sécurité. Ça va vous sauvegarder. Même sauvegarder votre mariage. Je sais qu'à à Accra, par exemple, au Ghana, et je pense que c'est une très bonne idée. On a même des frères et des sœurs qui fonctionnent en tant que conseillers de mariage, n'est-ce pas, conseillers. Ils ont ce fonctionnement, n'est-ce pas, conseillers de donner des conseils aux couples et aussi aux jeunes, aux célibataires, ceux qui ne sont pas mariés, qui veulent se marier. Ne méprisez pas ça, parce que ça c'est très utile, c'est très pratique. Hein? Donc, les chefs, hein, les chefs de famille étaient les premiers à retourner, hein, les premiers à se lever. Mais comment est-ce qu'ils ont pu se lever? Le mariage. Amen. Et la Bible est très intéressante. Parce que la Bible ne mentionne pas les femmes, ici. Dans les, okay. Je demande, je suis souvent demandé, pourquoi est-ce que, n'est-ce pas, c'est les chefs de famille avec leurs femmes, pourquoi pas avec leurs femmes? Ah. Intéressant. Ça veut dire, pour moi, ça veut dire que en tant que frère, en tant que mari, j'ai la responsabilité. Ah. Dans la Bible, Dieu est surtout sévère envers les maris. Donc les maris, ne soyez pas ah, c'est pas juste. Et les femmes, tu vois, moi je suis mari. Donc Dieu est surtout sévère envers les maris. C'est-à-dire que le mari, en tant que quoi, le vase, la femme, n'est-ce pas, qui est quoi, le vase plus faible, n'est-ce pas? Donc le mari, l'homme en tant que la partie plus forte, a plus de responsabilité. Ah. Donc, le mari doit s'exercer, doit être le premier à faire le premier pas de réconciliation, de repentance, d'humiliation, c'est le mari. Il y a un frère qui a récemment décédé aux États-Unis l'année dernière. On le connaissait très bien parce que lui et moi, nous étions dans la même formation en 1999. Non, 1998. Mais il était plus âgé que moi. Il avait au moins 10 ans de plus que moi. Et son témoignage à son enterrement, ce qu'il disait souvent. Il a demandé à un autre frère, pourquoi est-ce que le mari doit toujours dire pardon à sa femme? Et pourquoi pas le contraire? Bon, c'était son expérience. Hein, son expérience que quand ils se disputaient, c'était toujours lui qui, qui allait, n'est-ce pas? Qui s'approchait d'elle pour dire je m'excuse. Alors, il avait cette question. Pourquoi est-ce que, n'est-ce pas, c'est toujours le mari? Et il s'est rendu compte, il a dit que parce que Dieu veut perfectionner. Il veut nous perfectionner. il y a toujours, pour qu'un mariage réussisse, il faut que un fasse le premier pas. Mais qui le fera? C'est ça la question. Qui le fera? Pas moi. Non, c'est moi. Et c'est le principe dans la vie de l'Église. Qui sera le premier? Qui va prier? Qui va, n'est-ce pas, prêcher l'Évangile? Qui va se lever pour se consacrer au Seigneur? C'est moi. N'est-ce pas? Moi, je dois être le premier. Je ne peux pas attendre quelqu'un d'autre. Qui va être le premier? Hein? Ça veut dire que, pas moi, mais parmi, n'est-ce pas, tous les croyants, qui sera le premier? Non. Le principe, c'est toujours moi. Moi, je serai le premier. Voilà pourquoi Dieu semble être sévère. Parce que quand nous lui répondons comme ça, il ne va pas nous lâcher. Il ne va pas nous lâcher. Donc, je sais, après une dispute avec ma femme, mais j'ai eu raison. J'ai eu raison. Mais j'ai eu raison. Comment est-ce que je peux me... J'essaie de raisonner avec ça. C'est-à-dire, mais, ok, si j'ai eu raison et je dis j'ai eu tort, n'est-ce pas que je mens? Alors, tu as dit de ne pas mentir. Donc... Oh, nous avons tant de raisonnements. Et le Seigneur ne va pas me lâcher. Non, lève-toi. Va. Non. Tu. C'est mon expérience. Le Seigneur vous dit non. Beaucoup plus souvent que oui. Non. Tu te lèves et tu vas auprès de ta femme pour t'excuser. Et quand je fais ça, souvent, au moins chaque, elle pleure, ou elle s'excuse. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est comme si tous les murs, toutes les défenses de nous deux tombent. N'est-ce pas? Tout ce que nous retenions, toutes nos défenses, toutes nos... notre protection, n'est-ce pas? Tout ça s'écroule. Quand une personne fait le premier pas. Donc, chef de famille, le mari, n'est-ce pas? Pas la femme, les femmes ne sont pas mentionnées ici, n'est-ce pas? Mais elles sont là. Parce que c'est l'homme qui a la responsabilité. C'est l'homme qui doit étant la partie apparemment plus forte. C'est lui qui doit, n'est-ce pas, faire ce premier pas. Et c'est comme ça que l'Église sera bâtie. Voilà un peu, fardeau. Je sais qu'on a, parlé plusieurs fois. Moi, j'en ai parlé, Frère Jerry, on a parlé, n'est-ce pas? Mais je pense que, et c'est bien, parce que il y a beaucoup de, n'est-ce pas, de nouveaux, de frères et des sœurs qui commencent à venir et qui commencent à voir quelque chose. Vous aurez des familles. Pour servir le Seigneur, il faut les familles. Vous allez vous marier. Il faut vous marier. Ah. Mais qui? Et c'est ça la grande question. Ah. Ce que vous avez touché maintenant, gardez-le. Que cette flamme ne s'éteigne pas avec le mariage. Que cette flamme, n'est-ce pas, se ranime encore, se répande encore avec le mariage. Ah. Là où vous et votre conjoint, vous pouvez suivre le Seigneur ensemble. Avec la même vision, avec la même ardeur. Peut-être que ce sera différent. La forme sera différente, n'est-ce pas? La manière, l'apparence sera différente. Mais le zèle, l'ardeur, la vision seront les mêmes. Voyez. Quand vous mariez, vous verrez que votre vie va changer. Vous pouvez parler avec ceux qui sont déjà mariés, leur vie a changé. Et quand vous avez des enfants, votre vie change encore. Ah. Donc, mais votre amour et votre zèle, votre ardeur pour le Seigneur ne doit pas changer. Doit même croître. N'est-ce pas? Comment ça va se manifester? Peut être différent. N'est-ce pas? Ça, c'est vrai. Ah. Oui, c'est vrai. Par exemple, avec les enfants, n'est-ce pas? Souvent, quand nos enfants étaient petits, ah, nous essayons de les ramener à la réunion, tous ensemble. Mais souvent, ma femme ou moi, nous prenions des tours, comme vous, n'est-ce pas, pour s'occuper, pour garder, pour veiller les enfants. Ah, ah, je ne voulais pas faire ça. Bon, mais je l'ai fait. Parce que moi, j'aimais être dans les réunions, mais moi, je devais apprendre à sacrifier, n'est-ce pas? Et ça, c'est pas... Donc, Marie, n'est-ce pas? Ah, le mari veut être dans les réunions, tandis que la femme, n'est-ce pas, reste dehors, en train de s'occuper des enfants. Tandis que le mari, n'est-ce pas, il doue le Seigneur, il est oui, très spirituel, et la femme, n'est-ce pas? Alors, donc, vous saurez, vous verrez que après la naissance, n'est-ce pas, des petits, vous devez prendre un tour, n'est-ce pas? Donc, la forme, mais ça ne veut pas dire que votre zèle diminue. N'est-ce pas? Non, c'est... Ou que votre fonction diminue. Non, vous allez croître avec les enfants, hein, vous saurez, avec le mariage, un bon mariage, et avec les enfants, vous saurez mieux comment servir le Seigneur. Un frère m'a dit, il dit après le mariage, après la naissance des jumeaux, et on était vraiment très contents, mais ouf, la vie était bouleversée. Il m'a dit, ah, maintenant, tu sauras comment servir l'Église. J'ai dit, oui, vraiment? Je ne pense pas que je serve l'Église maintenant. Je serve mes enfants. Je serve ma femme. Mais il a dit, n'est-ce pas, ce qu'il a dit était vrai. Ah. Si vous savez vous occuper de votre femme et de vos enfants, vous saurez vous occuper de l'Église. Quelqu'un qui ne sait pas s'occuper de sa femme ni de ses enfants, comment est-ce qu'il peut s'occuper de l'Église. Voilà, c'est... Alors, souvent, et je parle, je ne vous dis pas des choses pour vous enseigner, mais je parle selon l'expérience, selon des échecs, selon, n'est-ce pas, basé sur des leçons que j'ai apprises. Souvent, ma femme me dit, toi tu sers tout le monde, mais tu ne me sers pas, et tu ne sers pas nos enfants. Et ça, cette parole, ces mots sont revenus, me sont revenus encore et encore. Hein? Tu t'occupes de tout le monde, tout le reste, mais tu ne t'occupes pas de ta famille. Et donc, je me suis rendu compte que mon service a été, il y avait un manque. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi, et je vous ai partagé ça, je suis rentré à Chicago. Être avec ma femme, être avec ma famille, n'est-ce pas? Tant que nous sommes ensemble, tant que nous sommes, n'est-ce pas, pour être ensemble et être avec ma femme. Et donc, j'ai appris des choses, n'est-ce pas? Par l'expérience. Je remercie le Seigneur que le Seigneur m'a donné une femme comme ma femme qui a pu supporter des choses, n'est-ce pas? Ah, vraiment, c'était dur, supporter même l'absence, n'est-ce pas, pendant des années, pas des années continues, non, on se voyait, n'est-ce pas, assez souvent, mais quand même, j'habitais ailleurs. Et elle l'a supporté. Et moi, j'ai dit, je me rends compte, même notre mariage n'aurait pas pu survivre si elle n'aimait pas le Seigneur comme elle aime, n'est-ce pas? Parce que ça, c'était vraiment dur, quelque chose de très dur pour le mariage. Bon, donc à travers beaucoup d'échecs, beaucoup d'expériences, voilà, le Seigneur, nous suivons toujours le Seigneur ensemble, et il y a toujours lieu d'amélioration, on peut dire lieu de nous élever, pas d'avancer. Mais donc celle ou celui que vous choisissez d'épouser compte beaucoup. Cette décision est très très importante dans votre vie. Amen. Voilà, je m'arrête là un peu. J'ai parlé de mon cœur. C'est pas vraiment un message, mais c'est beaucoup d'expérience, c'est beaucoup de fardeau. Si vous avez des questions,